1er janvier à 1h54.
Ma chute de neige pour dire à Rock, nous savons à Béléon. Ok!
Allez! Bon, bah, Daniel, la minute va être vite passée. Alors, donc, je voulais te souhaiter une excellente année à toi et à ton équipe. Et puis, 10 000 merci pour toutes tes émissions. C'était Georges de Mayenne. À plus.
Voici une carte musicale pour vous présenter mes voeux pour 2005. Washboard, Rhythm King. C'est Christian Saint-Just-Arambert dans la Loire. Bonne année à l'équipe de la Bosse, j'y suis. Salut, portez-vous bien.
Eh ben, c'était juste pour vous souhaiter une bonne année 2005. Voilà, ciao.
Bonjour, petit message pour le passage à l'an 2005 ou quelque chose comme ça. Si tu fumes, tu meurs. Si tu bois, tu meurs. Si tu passes tes vacances au Sri Lanka, tu meurs. Si tu habites au Sri Lanka et que t'as pas de vacances, tu meurs aussi. Si tu es élu ou réélu ou pas en 2007, tu meurs quand même. Si tu t'appelles Canel, tu meurs. Même Monsieur Dassault mourra un jour. Même le roi Baudouin de Belge est mort un jour. Même Juliette Gréco ou Simone Veil mourront et que c'est dommage. Même moi, je mourrai. Quand tu fais pas gaffe, tu meurs. Quand tu fais gaffe, pareil. Quand tu deviens vieux, tu sais que c'est pas loin. Quand tu es prêt de mourir, tu sais que c'est proche. Tu as toutes les raisons d'y croire, de ne pas y croire. Même si t'es con, tu meurs. Pas de chance, mon gars. Mais, si tu vis, tu mourras jamais. Salut et amitié à tout le monde de la part de Roger, de la Haute-Vallée de l'Aude.
Nous ne sommes que des essuie-glaces. Patients, obstinés, nous enlevons à chaque coup que nous donnons un peu de ce qui nuit à la visibilité. Mais la neige tombe de plus en plus, patiente, obstinée. Il faut bien le faire, essuie-glace. Mais cette neige, c'est nous qui la fabriquons. Alors il faudrait arrêter de fabriquer la neige avant que la vie d'essuie-glace nous ait mystérieusement fatigués, avant que l'épaisseur accumulée nous grippe. Réflexion d'un année triste, espérant que nous ferons meilleur la suivante. Elle est nommée 2005. Quand j'étais petit, ce devait être le bonheur pour tous, ce temps-là.
Oui, je voulais dire que dans le flot des images qui nous arrivent par la télé, dangereux d'ailleurs les images, hein, qu'est-ce qu'on ne peut être voyeur. J'ai dans la tête l'image d'un homme sur une plage redevenue très belle. Cet homme, c'est sûrement un pêcheur, parce qu'il est habillé en sarong, je crois. Il regarde l'océan et on dirait qu'il l'interroge, on dirait qu'il lui demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Voilà, c'est tout.
Alors, j'ai déjà oublié le nom du président de Radio France qui a lancé l'idée géniale du SMS de la solidarité pour la vie, avec donc 42 millions de portables en France. Et 1 euro par SMS, ça ferait donc 42 millions d'euros. 1 euro, c'est rien. Allez, messieurs, dames, faites un geste. 1 euro, allez, c'est vrai. Mais alors, quand des voix s'élèvent pour demander une taxe Tobin de 0,1% sur chaque transaction financière, ah là là, non, vous n'y pensez pas. L'économie mondiale s'écroulerait. Et pourtant, et tout cet argent qui circule chaque jour pour la spéculation et pour la fortune de quelques-uns, ben, ça en ferait des milliards pour améliorer le sort des pauvres gens de tous les coins du monde qui vivent avec rien. Ils pourraient avoir l'eau potable, ils pourraient avoir des maisons qui tiennent debout, les écoles, et peut-être même des systèmes de prévention des catastrophes naturelles. Hein? Alors moi, je compatis avec le malheur de tous, mais je garde mon euro et puis ma colère contre le système économique qui est injuste et inhumain.
Oui, bonjour, je souhaite une bonne année à George Bush, et comme je sais que c'est un petit gars intelligent, je crois qu'il va arrêter la guerre en Irak et qu'il va mettre l'argent pour les sinistrés en Asie, à mon avis. Bonne fête, George.
Oui, bonjour à tous. Alors voilà, 100 000 morts, j'ai encore pas entendu dire une fois qu'on était tous indonésiens, sri-lankais ou je sais pas quoi. Alors peut-être qu'il faudrait appeler Nicole Bacharan pour qu'elle nous le dise. Merci.
Depuis 9 jours, battage médiatique bat son plein. Et c'est bien. Catastrophe sans précédent, élan sans précédent, aide internationale sans précédent, couverture médiatique sans précédent. Ce matin sur France Inter, la plus grande catastrophe mondiale, la plus importante opération humanitaire de l'histoire. Pour la couverture médiatique et l'aide internationale, je suis d'accord et j'applaudis des deux mains. Mais catastrophe sans précédent, non, messieurs les journalistes. Cette partie du monde est régulièrement touchée par des catastrophes. 1970, 300-400 000 morts au Bangladesh. Bon. CNN n'était pas là, les ONG non plus. Mais plus près, 1991, 140 000 morts lors d'un raz-de-marée au Bangladesh. Le Bangladesh, un pays pauvre, absolument pas touristique, un pays miséreux. Quelle a été la couverture médiatique en 91? Quasiment inexistante. L'élan mondial, l'aide internationale, vous ne l'avez pas vu, moi non plus. J'oserais bien une explication à cette indifférence médiatique. Mais je serais taxée de mauvais esprit.
Oui, bonjour, c'est les vœux de Maurice. Merci à Daniel Mermet pour ses bonnes émissions. Et bonne année. Au revoir.
Eh ben merci Maurice, de vos vœux. Merci à tous. Bonne année à tous, à tous, à tous. Mais quand même, c'est un petit peu maussade, un petit peu aplati, un petit peu voilà, pas très dynamique hein, quand même en ce début d'année. Qu'on espère évidemment meilleur que la précédente. Nous, on a eu une idée pour essayer de partir du bon pied, c'est d'aller voir ailleurs si on y est. Et c'est tombé sur le Venezuela. On part aujourd'hui pour le Venezuela, pour essayer de rapporter du Venezuela une effervescence et une jubilation qui parcourt l'échine de ce pays que nous ne connaissions pas du tout et qui nous a beaucoup stimulé. Vous allez voir, vous allez entendre. On a parlé, une auditrice disait, c'est pas sans précédent. Et effectivement, on oublie déjà qu'au Venezuela où nous allons, eh bien, en décembre 99, il y eut au moins 50 000 morts suite à une catastrophe naturelle. On en a beaucoup moins parlé que de celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de celle-ci, mais ça veut dire que on est bien inégaux par rapport à ces affaires-là et que c'est bien la barbarie inégalitaire que cette catastrophe révèle. En tous les cas, nous partons pour le Venezuela. Après les messages qui suivent, je rappelle le numéro du répondeur de la base, et j'y suis, 01 56 40 37 37. Et bonne année.
Oui, Mermet, bonjour. Mais tu t'enfonces, hein. Parce que les cochonneries, même si on les décœure avec des alexandrins ou bien encore avec de la belle musique, une poubelle en or, c'est toujours une poubelle. Allez, salut.
Je repense à l'émission d'hier et je me dis que vraiment des vieux messieurs très sérieux, ils sont comme tous les autres mecs, ils ne pensent qu'à leur sacro-sainte quéquette. Nous, je pense qu'on est au-dessus de ça, les femmes. Vous savez, pour moi, un bon orgasme, ça a autant de valeur qu'une belle huître fine de clair ou une bonne curée de confiture de framboise. Pas plus, pas moins.
Ouais, bonjour Jacques de Lyon. J'ai appris dans le journal Le Monde ce matin que Monsieur Wolinski, dessinateur satirique de son état, avait été élevé au titre de chevalier de la Légion d'honneur, en même temps que Monsieur Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Alors premièrement, à quand les dessins de Jacques Faisan dans les colonnes de Charlie Hebdo? Et puis deuxièmement, moi franchement, si j'étais Philippe Val, hein, son employeur dans ce même Charlie Hebdo, je serais un peu mauvaise parce que c'est quand même pas faute de son côté d'avoir essayé de transformer toute l'année un journal anti-institutionnel en petit hebdomadaire inoffensif et gentiment satirique, quoi. Alors, il n'y a pas tant pis, chez Philippe Val, pour 2005, il faut accepter une nouvelle invitation chez Thierry Ardisson. C'est très porteur, très vendeur et puis surtout très très bien vu des politiques, hein. Allez, bonne année à toute l'équipe de La Basse, j'y suis. Ciao.
Je vous appelle pour vous faire part d'une petite aberration. Nous pouvons nous féliciter, les opérateurs de portables ont mis en place un système de dons par SMS. Par contre, vous ne trouvez pas pourri le fait qu'ils fassent du bénéfice sur le désespoir des autres? Voilà, le SMS revient aux opérateurs à 2,21 centimes et il vous est facturé entre 7 et 15 centimes d'euros. Les chiffres viennent de l'agence Reuters. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Au revoir.
Salut Daniel, tu savais toi que Mattei était président de la Croix-Rouge? Espérons qu'il fera à l'échelle mondiale ce qu'il n'a pas été fichu de faire pour la santé en France. Décidément, avec un peu d'effort, on peut tout recycler. Mes vœux pour 2005, envoyer Célière travailler à l'usine, transformer Raffarin en âne, en vrai, et expédier Chirac sur Mars. Bon, c'est pas sympa pour les Martiens, mais tant pis. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet avec le Guy Ventil, Antoine Chao, là-bas si j'y suis, ou à Venezuela.
Flight number 2, arriving from
República Bolivariana de Venezuela.
La base si j'y suis.
Comment s'appelle le barrio ici, le quartier?
Manicomio.
Manicomio. Ici, c'est Manicomio. Et aujourd'hui, c'est samedi, c'est la fête de Santa Barbara, à Manicomio. Et là, on vient juste de rentrer dans le quartier. Et c'est très, très sympa parce qu'il y a un concours de boules. Il y a un concours de boules et c'est des équipes féminines. Voilà, les équipes féminines de boules. Mais c'est vachement organisé, c'est vachement gay, il fait beau. Oui. Et c'est très gay, hein. C'est la vie vachement sympa. Là, il y a des tables avec des gens qui sont en train de jouer au domino, tranquillement, en famille, c'est pépère.
Buenas tardes.
On boit pas mal, on boit de la bière.
Non, mais non.
Tu joues au domino, toi?
Ah bah, on connaît le jeu, oui.
Si.
Ah ouais, maman, vamos.
Tout à l'heure, on va jouer, là, si tu veux.
Je pensais que tu avais 4, là.
Vous allez voir les boules là-bas, là.
C'est oui, on va voir les boules.
Vous avez vu, là, c'est une partie acharnée entre l'équipe féminine du ministère de la Santé contre l'équipe féminine de l'hôpital psychiatrique. Et c'est très sérieux, il y a le juge au milieu qui dit qui mène, il y a les assesseurs qui disent non, c'est notre équipe qui est devant, c'est tout le public, là.
Oh, Venezuela, un bateau plein de trous sur une mer de pétrole et tournant tout autour l'aileron menaçant d'un requin nommé USA. Voilà à quoi ressemble le Venezuela. Avec à la barre, grande gueule et béret rouge, l'improbable bavard charismatique Hugo Chavez, la constitution dans une main, un crucifix dans l'autre et Simon Bolivar partout. Alors, Chavez, despote ou sauveur, visionnaire ou tyran? Toujours péremptoire, le prêt-à-penser médiatique mondial a bien vite classé Chavez entre Saddam Hussein et Luis Mariano, un Pol Pot tropical sur des airs de rumba. Peu importe qu'il soit démocratiquement élu et réélu, peu importe qu'il n'y ait aucune censure, aucune atteinte aux libertés, aucun opposant opprimé depuis son élection en 1998, peu importe les programmes d'alphabétisation et d'accès aux études pour tous, de développement des petites entreprises et de coopératives pour les paysans sans terre et les pêcheurs artisanaux, peu importe les programmes de santé pour des millions de défavorisés, rares à travers le monde et notamment chez nous, rares furent les téméraires pour soutenir Hugo Chavez. L'exécration l'emporta bien au-delà de la droite et des néolibéraux. Les marxistes l'exécrèrent parce qu'il ne l'est pas. Les libertaires parce que c'est un militaire. Les altermondialistes parce qu'il n'est pas assez antilibéral. Les socialistes parce qu'il est trop antilibéral. Les verts parce qu'il exploite le pétrole. Les radicaux mondains parce qu'il n'est pas assez radicalement mondain. Les médias, bien que 80% des médias vénézuéliens s'opposent à Chavez. Bref, il était comme une pièce de théâtre fameuse dont un critique disait « Tout le monde déteste cette pièce sauf le public ». Si, depuis son élection en 1998, 6 ans déjà, Chavez a surmonté tous les obstacles, c'est à cause de ce vaste soutien populaire. Campagne médiatique acharnée, grève organisée par le patronat, appareil d'État hostile, coup d'État appuyé par la CIA, chaque épreuve le renforce, chaque élection le conforte. À cela, il y a de multiples raisons, il y a son fameux charisme. Dès qu'on dit Chavez, on attache tout de suite le mot charisme. L'incurie de ses adversaires le sert beaucoup, ils sont particulièrement, on pourrait les qualifier d'un seul mot de crétin. Bien sûr, c'est un peu méchant, mais vous allez voir, chemin faisant que quand même le mot est presque un euphémisme. Et puis il y a la conjoncture pétrolière mondiale, il y a la guerre en Irak qui, c'est malheureux à dire, mais profite au Venezuela, il y a tout cela. Mais avant tout, il y a le Venezuela, il y a les Vénézuéliens, il y a ce pays qui est la patrie véritable du libéralisme réellement existant. Cinquième producteur mondial de pétrole, le Venezuela est un pays riche qui fournit plus de 15% de l'approvisionnement des États-Unis. Toute la richesse du Venezuela est cependant accaparée par moins de 20% de la population, alors que 80% des habitants de ce très très beau pays d'ailleurs vivent en dessous du seuil de pauvreté, d'où cette tension et cette violence permanente partout, un état de guerre civile symbolique permanent. Quand je dis symbolique, c'est pas toujours symbolique. En 89, on se souvient comment la répression contre des émeutes de la faim et des manifestations contre le FMI et la Banque mondiale a fait des milliers de morts dans les bidonvilles qui couronnent la ville de Caracas. Donc la lutte ne date pas d'hier, Chavez n'est pas tombé du ciel, et avec la petite bande de là-bas, si j'y suis, c'est-à-dire avec Antoine Chao, avec Guy Van Til, on s'est autorisé à mettre Chavez de côté pour aller simplement voir ceux qui l'ont mis là, c'est-à-dire le peuple des barrios, les paysans sans terre, les indiens paimon d'Amazonie, les chercheurs d'or, les gardiens de la prison d'Eldorado, ou séjourna à Papillon. Eh oui, on ira par là. On va rencontrer aussi les créatrices de la première télévision rurale du pays. On va rencontrer les salseros du vieux Caracas. Et tous sont à bord de ce bateau plein de trous, de ce navire, à vouloir tout changer. L'équipage, le gouvernail, les moteurs, l'information, la répartition de l'espace entre les différentes classes de passagers. Ils veulent tout changer et même la destination. Mais ils ne changeront pas la musique. La bande son du naufrage sera superbe. Toute cette balade, tout ce voyage au Venezuela sera accompagné de musique formidable. Vous en avez déjà entendu dans les émissions précédentes. Ça, on n'a aucun mérite. C'est eux qui la font, la musique. On s'est contenté de la rapporter. Tandis que de l'autre côté, chez les riches, les 20% et moins que ça d'ailleurs de riches, eh bien les jets privés, clubs de golf, dans ces quartiers-là, on prépare la revanche et on ira aussi dans ces quartiers. Mais en attendant cette revanche, les prochaines élections, je crois que c'est en 2006 ou 2007. Eh bien, il y a cette énergie, il y a une jubilation dont je me parlais, il y a une sève, il y a un souffle, il y a des idées et des rêves, bref, tout ce qui nous a désertés, ce qui nous a lâchés ces temps derniers par ici. Voilà pourquoi nous partons vers ce nouveau monde et voilà pourquoi nous vous en rapportons à partir d'aujourd'hui. Quelques échos.
Alors, en voyant les images de l'Asie du Sud, j'imagine ce qu'ont pensé et ce qu'ont ressenti les habitants du Venezuela et les habitants du quartier où nous sommes. Aujourd'hui, à Manicomio, l'un des quartiers, l'un des bidonvilles, des barrios de cette ville qui cerne la ville de Caracas. Parce que je le disais à l'instant, le 15 décembre 1999, il y a eu une catastrophe terrible au Venezuela. 30 000, 50 000, 70 000 morts. Je sais pas si vous vous souvenez, on a oublié, ça n'a pas été médiatisé de la même façon. Et pourtant, c'est quelque chose qui a frappé terriblement, évidemment, les habitants et le monde. Caracas, vous vous souvenez-vous, était coupée du monde. La côte a été littéralement redessinée. La côte autour de Caracas a été redessinée par des glissements de terrain effroyables et faisant des dizaines de milliers de victimes. Et on, réflexion faite, enquête faite. La catastrophe était en partie évitable. Aucun système d'alerte au Venezuela, la déforestation, enfin un certain nombre de négligences dues à des conditions que l'on sait et qui ne se limitent pas à cette catastrophe et expliquaient en grande partie ce qui s'est passé. Mais ce 15 décembre 1999 était un jour très important aussi pour les Vénézuéliens, qui se traduit par un tout petit livre bleu que j'ai sous la main et qui s'appelle Constitution de la República Bolivariana de Venezuela. Et ça, ce petit livre avec une couverture bleue, c'est tout petit, ça doit coûter rien du tout, tout le monde l'a dans sa poche, tout le monde le brandit à chaque instant. Pourquoi j'évoque ce 15 décembre? Eh bien parce que c'était le jour de l'approbation de la nouvelle constitution proposée par Hugo Chavez. Et ça, s'il y a une réussite qu'on peut mettre à l'actif du très charismatique et très bavard président Chavez, eh bien, commandante Chavez, eh bien, cette constitution. Parce que, d'ores et déjà, en arrivant à Caracas, en quelques heures, vous avez compris, c'est que les 70-80% de Vénézuéliens qui vivent, comme je le disais, je le répète, en dessous du seuil de pauvreté, ont retrouvé une existence citoyenne. Cette petite constitution agréée par tous, qui a été plébiscitée par tous, eh bien, par une majorité en tout cas, a fait de ces déshérités, des citoyens, tout simplement, avec des droits. Et on va tout de suite se rendre compte, en avançant dans ce bidonville, donc à l'entrée de Manicomio, des gens qui jouent au boule, c'est pas forcément toujours des scènes tragiques, pathétiques, là c'est une belle journée, on joue au boule, il y a des concours, on joue au domino, c'est la fête de Santa Barbara, voilà, c'est gay, on s'amuse, on se détend, on boit des petits coups de bière et tout se passe bien, et puis on avance dans ce bidonville, et dont la caractéristique est d'être dans le fond d'une vallée, du lit d'un torrent qui se soulève chroniquement à la saison, et qui donc en ce décembre 99, en ce mois 99, a gonflé brusquement, emportant tout sur son passage et laissant dans la mémoire des habitants des souvenirs.
Andrea Maria,
on est chez vous là, dans cette petite vallée avec le barrios au-dessus, et ça a été terrible là, parce qu'il y a eu une inondation brusquement, il y a eu une montée formidable du torrent et ça a tout noyé en 99. Alors là on voit les dégâts. En fait, il y avait une conduite forcée pour l'eau, et puis sous la pression ça a cassé et c'est toujours pas réparé. Mais alors, vous, est-ce que vous avez voté pour Chavez?
Si, yo voté por él.
Oui, j'ai voté pour
lui. Et si, pongamos una comparación, el domingo vuelven a votar, vuelve a haber elecciones, yo vuelvo a votar por él.
Et s'il faut tout vous dire, si on devait revoter dimanche pour lui, je revoterai dimanche pour lui.
Et pourtant, depuis que vous l'avez élu, Chavez n'a rien fait pour vous pour l'instant.
Bueno, no digamos que no ha hecho, sí, se ha hecho mucho.
On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, il a fait beaucoup de choses pour nous.
Horrible.
Avant, c'était bien pire que ça.
limpiaron un poco la quebrada.
¿Y son canales de toallir el ravén?
Pero esa es una parte, no es culpa de él, porque usted sabe que esto se encarga la alcaldía.
Y de toute façon, tout ça, c'est pas vraiment de sa juridiction, entonces, puisque c'est quand même la responsabilité de la mairie principale du Grand Caracas.
Quedó mal. Cuando estaba Alfredo Peña.
Alfredo Peña.
Oye, cuando estaba Alfredo Peña, era que había ese problema.
Voilà. Le problème, c'est qu'à l'époque où il y a eu tous ces dégâts, le maire principal de Caracas était Alfredo Peña, qui était anti-chaviste, et qui donc a saboté tout le travail contre le gouvernement. C'était un vrai sabotage délibéré.
Bon, alors maintenant, ici, votre maire, il est chaviste.
Sí, es chavista.
Et du coup, quand est-ce que vous l'avez élu?
No tiene un mes todavía.
Y a même pas un mes.
Sí, ah, no tiene un mes.
Y esperamos en Dios y la Santísima Virgen que eche para adelante porque está reenganchado también.
Y on espera, grâce à l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge, que ça va continuer comme ça parce qu'ils vont nous aider.
Est-ce que vous avez fait l'alphabétisation les uns ou les autres, non?
Yo voy a empezar.
Moi, je vais commencer.
Premier año, primer grado.
Premier niveau, premier degré.
Sí. No he ido porque me da pena. Pero tengo que aprender algo, ¿verdad? Aunque sea firmar mi nombre.
Bueno, il faut que j'apprenne quelque chose, au moins écrire mon nom.
Et pourquoi vous n'avez pas commencé encore?
Ah, porque en aquel tiempo los padres de uno no se preocupaban para que uno aprendiera.
À ce temps-là, personne ne s'occupait du fait qu'on sache lire ou pas.
Et alors donc, vous n'êtes jamais allé à l'école?
No, porque nunca me inscribieron en un colegio.
No, personne ne m'a jamais inscrit dans une
école. Y que la mayoría de las escuelas cobraban.
Y en plus, la mayoría de las escuelas étaient payantes.
Me ponían a trabajar.
On m'a mis à travailler, quoi, c'est tout.
À quel âge vous avez commencé à travailler?
Yo empecé a trabajar como a la edad de 17 años.
Moi, j'ai commencé à travailler vers les 17 ans.
Alors,
dans une maison, comme personnel de maison.
Ah, vous faisiez le ménage, vous étiez une bonne. Je peux vous demander votre âge?
59 ans, j'ai 59 ans.
Et bien à 59 ans, vous allez commencer à apprendre à lire, à écrire et à compter.
À écrire et à lire.
Je entiendo un poquito de números, si entiendo y eso.
Moi, je sais un peu compter, mais je sais
plus tout
lire.
Poco a poco. Et
compter les billets, ouais. Ça, je sais faire.
Ah, está mi mamá que tiene la casa de alimentación. Ella también, ahorita nosotros, como ella nous obligó a nosotros a estudiar.
Ah, ça c'est excellent. Même chez moi, on va maintenant obliger ma mère à aller à l'école, parce qu'elle nous a obligés à y aller à l'école. Alors maintenant que c'est possible pour les adultes, c'est nous qui allons l'obliger à y aller à elle.
Alors, discussion avec les gens de ce bidonville de Manicomio, et tout de suite, on évoque l'alphabétisation. En effet, c'est une des victoires, on peut dire, un des succès à mettre à l'actif de Hugo Chavez et de son gouvernement. C'est ce qu'on appelle les missions. Il y a un certain nombre de missions concernant l'alphabétisation, concernant l'éducation et concernant la santé, d'autres choses aussi qu'on verra, qui sont de véritables succès. Et voilà, il y a un million et demi de personnes qui en peu de temps, ont pu être de cette façon alphabétisées. On ira voir dans ces écoles, dans ces cours de formation, comment ça se passe, comment les gens sont indemnisés, parce que ça fait des heures de travail en moins, ou bien les déplacements, etc. C'est fait très soigneusement, et c'est pas seulement les enfants défavorisés, les jeunes défavorisés qui sont alphabétisés, c'est aussi tous des gens parfois âgés. Évidemment, c'est ce qu'on met en avant tout de suite, c'est bien normal, mais ça fait partie des choses qui sont acquises, ça fait partie des acquis au moins de cette fameuse révolution bolivarienne, de ce processus révolutionnaire qui a fait dresser tant de boucliers ici, et tant d'aspirations excessives, et tant de détestations tout aussi abusives. On se balade tranquillement dans ce quartier, les gens sont très accueillants, très souriants, très pauvres et espérants. Voilà, espérants.
Ah, mais le nom de mio est Rangel Aguilar.
Je m'appelle Rangel Aguilar.
Si, si.
Rangel. Et toi, tu fais quoi ton travail? C'est de faire la cuisine?
El trabajo mío es cocinar, claro, cocino por lo menos en mi casa, ¿ves?
O sea,
me defiendo con eso, ¿me entiendes? Porque yo no tengo empleo,
¿ves? Y
colaboro también acá en el comedor, que bueno, que le puso el presidente Chávez a la comunidad para servir al pueblo.
Y yo donne un coup de main bénévolement a la cuisine collective que ha sido instalada por la presidencia.
Y puis sinon, tu fais des empanadas que tu vends dans la rue.
Empanadas las produzco aparte porque yo trabajo, y de lo que yo, ese es mi sustento mío, o sea, el sustento mío es para yo comprarle.
Moi, je vis surtout de ça, de faire des empanadas que je vais vendre. cuando va al hospital.
Comprarle las cosas a mis hijos, que si su ropa, sus cuestiones.
Pouvoir habiller mes enfants,
pouvoir les nourrir. Cositas así de que les hacen falta.
Celebrar esta Navidad para que tengan la
infancia. Y comprarle sus regalitos de Navidad.
Que puisse por Noël, que va a arriver, avoir un cadeau. Que reste pas sin cadeau por Noël.
Entonces, bueno, pues ahí hemos luchado bastante y seguimos luchando, ¿me entiendes?
On s'est beaucoup battu y on continuera.
¿Ah? Pero por eso estamos nosotros luchando, por lo menos los del pueblo, que estamos trabajando en las comunidades, la cuestión, estamos luchando por eso para que las cosas se cumplan. Como él quiere.
Estamos en train de se battre à la base, dans nos quartiers, dans nos villages, pour que les choses puissent se réaliser malgré l'administration qui freine.
Sí, hasta luego. Y yo por el presidente Chávez, yo he luchado bastante, no solo acá.
Beaucoup battu pour Chávez, pas qu'ici
d'ailleurs. En Trujillo también, yo soy trujillano.
T'es un militant.
He luchado bastante, sí, he luchado bastante y seguiré luchando.
Y yo continuaré.
Claro, continúo luchando yo.
Est-ce que vous savez qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez vous dans le monde entier?
Claro. Oui, bien sûr, con eso.
Estamos claros en eso, yo estoy claro en eso, de que todo el mundo, y me gusta eso, me gusta porque son cosas que en realidad...
Yo estoy contento que el mundo entero nos regarde, porque en realidad...
Porque tú sabes que acá, por lo menos los medios de comunicación de acá, mienten demasiado.
Porque no podemos contar con los medios de ese país que mienten sistemáticamente para lo difundir.
Mienten demasiado, y entonces uno acá, esos han sido problemas en realidad para llevar al pobre, bueno... al piso.
Ça a été créé exprès pour mettre les pauvres encore plus bas qu'ils n'étaient.
Alors maintenant vous avez retrouvé un peu de la dignité là, hein. C'est ça l'histoire.
Ah, sí.
Recuperado
claro,
su dignidad.
Claro, cómo no, cómo
tout
no.
Fait, sí, tout à fait, ça, on a claro.
Yo ahorita le estaba planteando eso, que por lo menos ahorita nosotros nos sentimos orgullosos porque tenemos libertad de expresión que antes no la teníamos.
On est fiers parce qu'on a une liberté d'expression qu'on n'avait jamais eu avant.
Et ça, c'est vrai. Liberté d'expression au Venezuela, c'est pas du tout à remettre en cause. Liberté d'expression pour les médias qui a, en grande majorité, on dit 80%, ça doit être assez proche de la vérité, sont opposés au gouvernement de Chavez. Il n'y a aucune opposition à la liberté. Il y a des lois sur la presse qui sont en voie d'application. Il faudrait vérifier ça. Il faut être très attentif. Il y a évidemment, on le disait à l'instant, avec cet habitant du quartier de Manicomio, il y a un intérêt international sur ce qui se passe au Venezuela. Tout le monde regarde ce petit pays, et petit pays de pas loin de 30 millions d'habitants et deux fois grand comme la France quand même. Mais évidemment... s'il y a la moindre censure, la moindre mauvais traitement aux opposants, on brandira, et on aura raison, le spectre de l'autoritarisme et la bonne image qu'a Chavez en ce moment dans le monde s'en trouvera d'autant ternie. Je dis bonne image dans le monde, tout simplement parce qu'il faut rappeler que le 15 août dernier, le référendum révocatoire a été remporté par Chavez à 60%. C'est-à-dire qu'au mois d'août dernier, ça a été le plus haut niveau de participation électorale des 30 dernières années au Venezuela, et ça a été suivi d'élections régionales et municipales du 31 octobre dernier. 270 municipalités sur 334 ont été emportées par les listes chavistes, et 22 États sur 23 sont dans l'escarcelle chaviste. C'est-à-dire, c'est une marée rouge, peut-on dire, qui s'est étendue sur le Venezuela, au point que les observateurs s'inquiètent d'un manque d'opposition. Pas assez d'opposition, l'opposition complètement écrasée, et ce qui est évidemment inquiétant, toujours préoccupant en tout cas. On en parlera avec une très bonne observatrice de ce qui se passe au Venezuela, une historienne sociologue qui s'appelle Margarita López Maya, qui donne des observations et des analyses extrêmement intéressantes et assez distanciées. On aurait pu croire que c'était le rôle des observateurs étrangers, de dire, bah, nous qui sommes loin, qui sommes pas dans la fournaise et dans la bipolarisation excessive de ce pays, on peut peut-être apporter... Non, ça viendra de l'intérieur avec la voix de cette femme et d'autres d'ailleurs qu'on rencontrera. Mais comme dit notre ami Rangel, nous sommes redevenus des sujets, non plus des sujets de compassion, d'abord invisibles, hein, 70 à 80% d'une population rendue invisible, qui n'existe pas. Vous ouvrez la télé, vous ne voyez jamais ces gens-là. Vous ne les voyez pas à la télé.
Et bien c'est cette apparition des disparus qui est déjà un premier phénomène et comment des tout au plus ceux qui étaient les sujets de compassion sont devenus des sujets politiques.
Eso es un hecho que en este mismo
là, c'est une maison qui est construite juste au-dessus de ce qui reste de la canalisation en béton. Et là, comme le soir commence à tomber, c'est vraiment la pure obscurité.
Alors là, on rentre dans le noir, je ne sais pas où on est exactement.
Là, là, c'est des goûts qui passent sous la maison. Là.
Et quand il pleut,
il pleut, c'est fait. C'est magnifique, il y a des étincelles. La nuit est tombée, il y a des étincelles qui sortent. C'est un mec qui est en train de faire de la soudure. Et c'est absolument magique. Il y a la grand-mère qui est en train de nous montrer que il y a un égout qui traverse sa maison. Il y a ses chiens qui gueulent. Il y a la nuit qui tombe. Il y a le gars qui est avec en train de faire bloquer des étoiles. Et puis, là, il y a une chose très belle. C'est un mât auquel pend une lampe électrique au-dessus de nous. Mais il y a tous les fils qui descendent vers les bicoques, et ça ressemble à un chapiteau de cirque. C'est quelque chose de magique, hein.
Ça, c'est le bruit de l'égout, c'est effrayant, quoi. Toute la journée. Quand il pleut, l'odeur est insupportable. Trop.
Mais ça sent la pourriture. Mais vous vivez là, vous? Vous vivez ici?
Oui, ça sent là aussi. Je vis ici, moi, c'est ma maison.
Là-dessus,
oui.
Et donc
toute la saloperie qui vient de la colline, qui vient des maisons d'en haut, arrive ici.
Et l'autre, il continue de fabriquer ses étoiles là-haut.
Non, il est en train de faire une porte là-haut.
Alors là, on a changé d'étoile, c'est comme si les étoiles fabriquées par ce gars qui est en train de faire de la soudure dans ce bidonville arrivaient de l'autre côté de Caracas, dans le quartier est de Caracas, chez les riches. Et alors, c'est des riches, nouveaux riches, qui étalent ostensiblement leur richesse de façon absolument caricaturale. Là, on est dans l'arrondissement de Chacao, on est dans un quartier qui s'appelle Altamira, et on est dans un mall qui s'appelle San Ignacio. Et ça, c'est absolument formidable. On n'a pas beaucoup d'endroits comme ça encore chez nous. Enfin, on a des grands centres commerciaux, mais pas le mall à l'américaine. Là, c'est le mall à l'américaine copié dans cette ville de Caracas. Et alors, tout est absolument... C'est comme une espèce de grosse crème chantilly qui commence à fondre de tous les côtés. Et, c'est le commerce, l'hyper-consommation. Il y a des immeubles. Hein. Vous pouvez très bien acheter un appartement, louer un appartement qui donne sur ce mall. Et là, c'est la débauche de fric, de pub et de conso. Et c'est dimanche et on est à l'autre bout de la ville, donc je l'ai dit. Et c'est Noël, les enfants. Joyeux Noël.
Bonjour, comment vous vous appelez?
Sonia Dormois.
Mais ça, c'est un nom français, hein?
Si, je suis hija de français, mais je ne parle pas français.
Oui, moi, je suis fille de français, mais je ne parle pas français.
Et vous habitez dans le quartier, ici?
Si, en el este.
Oui, je vis à l'est.
Vengo aquí porque la Navidad es muy linda. El centro comercial está muy bello.
Et aquí, je viens ici parce que pour les fêtes de Noël, ici, c'est très beau.
Pero hay otro centro comercial que está, no sé si lo conoce, que se llama La Cascada, que está hacia Los Teques.
Il y a encore un autre centre commercial aussi qui est très très beau, c'est La Cascada, qui est un peu plus par là-bas.
Alors vous, le dimanche, vous venez vous promener là, Sonia?
Sí, sobre todo ahora en estas fiestas de Navidad, claro que sí.
Non, surtout en ce moment pour les fêtes de Noël.
En Caracas, sobre todo, no hay mucho, mucha diversión, pues, sino estar en los centros comerciales, que es más seguro.
Parce que à Caracas, sinon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où s'amuser. Le divertissement, il n'y a pas d'endroit très sûr en plus. Donc ici, au moins, on est en sécurité.
Voilà, c'est ce qu'on se disait, justement. On se disait, les gens ont l'air très à l'aise, alors qu'on sait que il y a un problème d'insécurité quand même à Caracas.
Ciertamente, por eso es que toda la gente de Caracas viene a los centros comerciales.
Bien sûr.
Hay más seguridad, porque si usted va
bien sûr, c'est pour ça que tous les gens de Caracas viennent plutôt dans les centres commerciaux.
Là, on est tranquille.
Le reste de la ville est très dangereuse.
Exactamente. Hay que venir a los centros donde hay más seguridad y hay estacionamiento.
Voilà, il faut venir dans les centres commerciaux où il y a de la sécurité et des endroits pour se garer.
Entonces, por esa razón es que nosotros venimos a los centros comerciales.
Donc voilà, c'est pour ces raisons-là qu'on vient nous dans les centres commerciaux plutôt.
Juste histoire de goûter l'apartheid social qui caractérise cette ville de Caracas. On s'est indigné à juste titre, on a lutté contre l'apartheid racial, le combat n'est pas terminé, mais aujourd'hui l'apartheid social a remplacé cet apartheid racial. En tout cas, c'est le cas d'une façon violente, terrible, dans cette ville de Caracas. On pourrait parler d'autres villes et d'autres lieux du monde, mais là, on est là aujourd'hui, et on revient dans le bidonville de Manicomio avec Randrel, qui nous parle des médias, justement, Randrel.
Yo veo el canal 8, no en mi casa, vemos el 8, Katia TV.
Donc on regarde Katia
Venezolana
TV.
Venezolana de televisión.
Venezolana de televisión, la chaîne publique.
Y el 25 es Vive TV.
Et Vive, la nouvelle chaîne publique communautaire aussi.
Sí, el resto los demás no los vemos porque no nos gusta. Lo que pasa son puras cosas que en realidad lo que hacen es perturbarle más bien la tranquilidad.
Mais on regarde pas les autres chaînes, parce que les autres chaînes, elles font que essayer de nous embrouiller l'esprit.
Est-ce que tu es déjà allé dans les quartiers est de Caracas?
Sí, he ido por el este de Caracas, yo he estado por allá, pero allá lo que vive es puro rico.
Mais je suis déjà allé, mais là-bas, c'est que des riches.
En el este no hay alcantarillas, así, no hay cuacas, no hay nada.
Y rien, tout ça, y a pas d'égout en plein air.
Allá lo que hay son puras quintas, mansiones, acá, concha, le mira
cómo. C'est la cinquième dimension comparé.
Et est-ce que eux sont déjà venus ici, d'après toi?
No, ellos nunca han venido para acá, se les ensucian los pies.
No, ils sont jamais venus ici, ils risquent de se salir les pieds.
Mais ils vous voient à la télé maintenant avec votre télé.
Ahora con Vive TV y
Cata TV. Claro, eso sí han venido. Que ellos saben que este país va para arriba. Lo que ellos nunca pudieron hacer.
Maintenant, ils voient avec cette télé, tu sais, que ce pays est en train de s'élever, est en train de monter, ce que eux ils ont jamais fait auparavant. Voilà.
Mais s'il y avait pas la télé, ils vous auraient jamais vu.
Claro, no, jamás.
Non, jamais.
C'est vrai. Ils auraient jamais vu. Maintenant, ils peuvent vous voir comme
vous vivez. Ahora pueden ver como la gente vive en ese país.
Claro, claro que sí. Claro que sí. Conforme, como viven los ricos, como vivimos los pobres.
Les riches peuvent voir comment nous, les pauvres, vivent.
Ella es la señora mía.
Voilà, ça c'est ma femme.
Sí. Entonces, bienvenido, yo vivo acá.
Soyez bienvenue dans ma maison qui est pauvre, mais modeste, mais soyez bienvenue.
Y la torta es de ella que está cumpliendo años. Sí.
Elle a fait le gâteau là-bas.
Sí.
C'est son anniversaire, c'est son gâteau pour son anniversaire.
Eh ben, bon anniversaire, hein.
Gracias.
Et ça c'est vos trois enfants.
Sí.
Tres. Ella se llama Francis, digamos.
Francis. Francis, et toi?
Giovanni.
Et toi?
Wilker.
Sí.
Et John pourquoi... Wilker Bush.
Comme Bush?
Non. No. Aquí no queremos, yo no.
Ok, merci beaucoup.
Muchas gracias, c'était les 30 años otra vez.
Ok.
Et bon anniversaire.
Nous sommes bastante agradecidos. Yo no puedo bajar a acompañarlos más porque yo tengo ahorita mucho trabajo.
Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous accompagner plus, parce que vous voyez, il y a les épines de maïs.
Yo tengo que pelar ese saco.
Je les ai plus, il faut que j'épluche tout le sac derrière pour pouvoir faire
para trabajar para mañana.
Pour préparer le boulot, pour pouvoir bosser demain et faire mes galettes.
À quelle heure tu te lèves demain matin?
Bueno, acá me levanto a las 2, empiezo a preparar la masa, monto la sopa.
Je commence à 2h du matin, je commence à préparer la pâte, je fais la sauce.
Sí. Y entonces a eso de 6 de la mañana ya estoy subiendo para arriba con un puestecito
que tengo. Du coup, à 6h du matin, je descends un peu plus bas, vers mon stand.
Es acá arriba, cerquita de l'hôpital.
Juste en bas, un peu plus bas, juste à côté de l'hôpital psychiatrique. Mon petit étal d'empanadas.
Combien tu gagnes dans une journée?
Bueno, por dinero por día a mí me vienen quedando como entre 18, 20 mil bolívares, porque yo pago a un joven acá también para que me ayude. O sea, tengo un empleado.
Un employé, que je paye un petit jeune pour qu'il m'aide. Sinon, ça fait en fait 18 à 20 000 bolívares par jour, ce qui fait 8 euros à peu près, maximum.
8 euros par jour avec ta femme, 3 enfants, et puis les 3 grands-enfants.
Sí, tres otros, sí, ya grandes.
Trois autres grandes.
Y eso, trabajo ahí, me levanto a las 2, a las 9 de la mañana, cuando tengo por lo menos así, que tengo a quien dejar allá arriba, yo bajo a cocinar acá al comedor también, le presto también la colaboración
donc,
al comedor.
Et donc, je commence à 2h du matin, vers 9h du matin, quand j'ai à peu près fini, bah, je remonte ici pour pouvoir travailler à nouveau à faire la cuisine ici, au centre de distribution de nourriture.
Mais là, c'est gratuit? Tu travailles bénévolement ou au centre de nourriture, ils te payent un petit peu?
Non, je travaille volontaire, hasta el momento no nos han pagado nada.
Non, jusqu'à maintenant, je suis volontaire, jusqu'à maintenant, on m'a rien payé.
Claro, el trabajo está muy chévere porque es para uno, por lo menos, ayudar a la comunidad.
Parce que c'est quand même aider la communauté.
Pero uno por lo menos no tampoco es que exigir un sueldo, no.
C'est pas qu'on exige un salaire, mais on aimerait bien avoir une aide quand même pour ce qu'on fait.
Nosotros estamos claros que yo sé que por lo menos el presidente Chávez en ese particular él toma mucho en cuenta esas cosas.
Et je sais aussi, pour sûr que le président Chávez il prend en compte tous ses besoins.
Pero sí tenemos por lo menos el buen pensado y los buenos sentimientos de que él por lo menos él va a prestar esa ayuda.
Et on est certain qu'il va nous aider un jour d'une autre manière pour ça.
Estamos bueno, luchando y vamos a esperar de que todo se nos va a solucionar y todo.
Et pourtant, on va continuer comme ça à lutter en espérant que petit à petit la vie sera meilleure.
Combien de fois, combien de voix ont répété ce ou ah, Chávez no se va au cours des dernières années, ou ah, Chávez restera. Évidemment, c'est devenu le l'hymne, le slogan du Venezuela actuel, la phrase, le son, et qui fait horreur à ceux des quartiers est, qui ont perdu et qui se replient dans leur peur et dans leur ghetto.
Nous, on est étonné quand on arrive ici à côté de la Altamira. Alors, on voit plein de fils de fer barbelés, des portes blindées, des gardiens armés. Vous avez peur, quoi? C'est un peu un endroit où vous avez peur?
Non, c'est un barrio en Chacao. Je suis en Chacao. Et c'est un barrio plus sûr que le reste.
Donc, ici, on est à Chacao. Et ici, moi, je suis né ici. C'est un endroit qui est un quartier qui est plus sûr qu'ailleurs.
Le municipio de Chacao est emblématique de l'opposition.
Et la municipalité de Chacao est emblématique de l'opposition. Donc c'est pour ça que...
Porte-parole, fer de lance de l'opposition.
Yes.
Et vous êtes dans l'opposition?
Yo soy de l'opposition.
Oui, je suis de l'opposition, bien sûr.
Sí. Radical de l'opposition.
Ah, qu'est-ce que c'est radical de l'opposition?
Je n'ai absolument rien à voir avec
Chávez. J'ai rien à voir avec Chávez.
Nada que ver.
Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce Chávez?
Chávez est muy populista, es extremadamente populista.
Chávez est populiste, il est extrêmement populiste.
Y es muy extremadamente mentiroso, o sea.
Et il est tout à fait menteur, complètement menteur.
Sí, lo que hace es engañar al pueblo que lo eligió, que es el pueblo más pobre de Venezuela.
Il trompe le peuple qui l'a élu, c'est le peuple le plus pauvre du Venezuela.
Y ahorita lo hay más pobres que nunca en Venezuela.
Et en ce moment, il y a encore plus de pauvres que jamais ici au Venezuela.
Lo ven por todas partes que es el más pobre que nunca.
On les voit partout les pauvres.
Alors vous avez lutté avec votre casserole dans les rues.
He marchado, he tocado casserole.
J'ai manifesté, j'ai marché, j'ai tapé sur les casseroles. J'ai fait toutes les manifs. C'est impressionnant.
Vous avez soutenu le coup d'État du 11 avril?
Que j'ai participé. Lo respaldé con todos los hierros, como decimos aquí en Venezuela.
Bien sûr, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je pouvais.
Et vous avez soutenu Carmona?
Sí, yo todo el tiempo. Yo prefiero mil veces otra persona que Chávez.
Ouais, tout Chávez à fait. Moi, je préfère mille fois quelqu'un d'autre que Chávez, peu importe qui.
Es un militar, punto.
C'est un militaire,
todos
moi, c'est tout.
Todos los que están mandando son militares. Todo. La gran mayoría del gabinete es militar.
Et en plus, la plus grande partie de son cabinet, ce sont des militaires aussi.
Sí. Y prácticamente estamos en una dictadura.
On est pratiquement dans une dictature.
Bueno, empezamos hablando de la Navidad y terminamos hablando con Chávez. Yo dije que en la Navidad no se hablaba de ese señor.
Voilà, on a a commencé par parler des fêtes de Noël et on finit avec Chavez. Moi, j'avais dit que pendant les fêtes de Noël, je ne parlais pas de Chavez.
Mais quand même, on en reparlera demain, en retour au Venezuela ou à Venezuela. La suite demain, merci à tous. Merci à Georges Martelly, notre ami traducteur, photographe. Thierry Deron, merci. Maurice Lemoine, Randrel Aguilar, Andrea Maria, Jesus Peter, Icaro Milagro, Sonia Dormois, Francesca et Madame Chavez. Merci. Un site sur lequel vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le Venezuela, c'est le site RISAL, R-I-S-A-L. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Patrick Henry et Mathias à Lyon, reporter, traduction Guy Vanti, réalisation et traduction Antoine Chao, assistant Yann Chouquet, montage Raphaël Moutard, le répondeur c'est Christophe Imbert, 0156 40 37 37, 0156 40 37 37, c'est le numéro du répondeur, et c'est Pascal Pascariello qui fait tout le reste du boulot. Après 37 secondes de pub, vous allez retrouver Frédéric Bonneau pour Charivari, et nous on se retrouve demain à 17h là-bas si j'y suis ou à Venezuela.